Famille, je vous aime, c'est une heure avec le Rav Mordechai Bitton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
Shalom Aleichem, bienvenue donc sur notre émission hebdomadaire Famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai Bitton. Cette fois-ci, on va déroger un petit peu à la règle, on va parler un petit peu moins du couple. On va parler beaucoup des relations entre les parents et les enfants. Ça a des incidences hein, sur le couple et sur les familles de toute façon. On va parler un petit peu de ça, un peu des prémices de ces relations, et puis un peu de ce qui se passe aussi un petit peu plus tard dans les relations parents-enfants, notamment une fois aussi que les enfants sont mariés. On va parler d'éducation, et puis on parlera aussi, ça va vous surprendre, parce que les questions me reviennent souvent sur ce sujet, notamment dans les thérapies d'astrologie, d'accord ? L'astrologie comportementale, l'astrologie, est-ce que c'est quelque chose qui est valable, oui ou non ? Doit-on en tenir compte, oui ou non ? Est-ce que ça fige, oui ou non ? Et puis on terminera avec une troisième partie, avec des questions qui me sont revenues donc, sur le couple, les relations entre le monsieur et la madame, des relations qui vont moins bien, mais en tout cas, des relations dont il faut parler. Voilà, c'est le sommaire de cette émission. On fait tout de suite une petite pause de publicité, et puis on se retrouve après donc, pour les développements de cette émission. À tout de suite.
À tout de suite avec Famille, je vous aime.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Famille, je vous aime, c'est une heure avec le Rav Mordechai Bitton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
Shalom Aleichem, bienvenue donc dans le cadre de notre émission Famille, je vous aime. Alors je vous rappelle le principe, vous pouvez poser vos questions sur radio@torah-box.com, je répète, radio@torah-box.com et la rédaction, la régie se fera un plaisir de me les transmettre et on les traitera, en tout cas en partie dans le cadre de cette émission, dont le but est toujours de dégager des pistes de réflexion. Alors on a dit que cette fois-ci, bon, on va déroger un petit peu à la règle, hein, on va parler plus des relations entre parents et enfants, de l'éducation. Et on parlera notamment de la punition, de la coercition, parce que c'est un gros sujet dans les familles. C'est un sujet qui souvent divise le mari et la femme, et donc il y a des incidences aussi sur la vie de couple. Alors concernant les relations entre les parents et les enfants, en fait, c'est une question qui m'a été posée, qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Une dame m'écrit, voilà, ma fille se marie, elle attend un garçon, Baruch HaShem, mais depuis qu'elle est mariée, elle est très distante avec moi. Elle fait tout plutôt avec sa belle-mère qui habite à côté de chez eux, donc elle et son mari. Et donc elle attend un garçon, et puis bon, je passe les détails, mais elle m'écrit également que pour la Brit Mila qui est prévue, donc sa fille et son fils ont déjà prévu quelle serait la personne qui emmènerait le bébé donc vers le Moël, parce que le bébé passe chez les mamans, puis ensuite après on le transmet chez les messieurs, et chez les messieurs il passe de main en main jusqu'à ce qu'il arrive donc au Moël. Alors, elle dit, bah voilà, moi je vois que je ne compte pas, alors que ma deuxième fille n'a pas encore d'enfant, et moi j'aimerais savoir comment réagir. Je pleure, je suis très triste. Je ne veux pas créer de preuve de Shalom Bayit, et elle a tout à fait raison. Je ne me suis jamais mêlé de rien, et on peut lui dire Chazak, Mamash Chazak, bravo de ne jamais vous être mêlé de quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a dans ce mail ici quelque chose d'un peu inquiétant. D'accord ? Qu'il puisse y avoir une mésentente, par exemple, on peut parfaitement imaginer que la fille se sente très liée à son mari, le mari lui-même étant très proche de sa maman, donc du coup la fille est partie un petit peu du côté de la famille de son mari. Pourquoi ? Parce que pour essayer de préserver l'équilibre de son couple, hein, de son jeune couple. Mais ce qui devient plus embêtant, c'est lorsque la prégnance est tellement forte que même dans une cérémonie comme la Brit Mila, la maman de la jeune fille est complètement écartée de tout. Alors c'est sûr que c'est un problème. Que ça engendre beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. On peut parfaitement le comprendre. Alors, je crois que dans ce type de... Et on va revenir après un petit peu sur les relations entre les parents et les enfants. Dans ce type de situation, effectivement, il faut sonner l'alarme chez la fille en disant qu'il est hors de question, évidemment, que sa maman soit complètement écartée de la cérémonie de la Brit Mila. Et ça, il faut le dire clairement, franchement. Mais pour autant, ça ne résout pas le problème de fond, les inconnus sur le problème de fond. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette maman, qui est mamie maintenant, donc, et sa fille? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette distance qui s'est introduite? Ça, c'est une chose qu'il faut essayer de comprendre, c'est de faire le point. Il ne faut pas se poser cette question, d'ailleurs, en termes de « qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ?» ou « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une chose pareille ?» Il faut éviter à la fois l'autoculpabilisation et en même temps l'agression vis-à-vis des enfants. Parce que sinon, sans le savoir, on va répéter des phénomènes comme ça, des phénomènes d'agressivité à l'égard des enfants, et c'est peut-être une chose dont les enfants ont pu souffrir, peut-être pas dans ce cas-là, mais c'est une chose qui arrive. Les enfants ont pu souffrir parfois de l'attitude des parents à leur égard, et donc une fois qu'ils sont mariés, ils éprouvent le besoin de s'éloigner, ou en tout cas de prendre des distances. Là, je crois que dans cette affaire, il faut simplement essayer d'être un petit peu chirurgien, un chirurgien psychologique en quelque sorte, essayer de comprendre finalement ce qui fait que la jeune fille s'écarte. D'accord ? Ça peut être, effectivement, comme on l'a dit au départ, une relation qu'elle préserve avec son mari, qui lui-même est très proche de sa famille, donc elle va en quelque sorte suivre ce mouvement. Ça peut être aussi pour des raisons géographiques. Il est parfaitement possible que cette fille, en fait, aime beaucoup ses parents, se sente très très proche de ses parents, mais sente que son mari, lui, a vraiment besoin de ses parents. Alors, elle établit ainsi une certaine distance. Bon, il est parfaitement possible aussi qu'il y ait eu, durant l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, il y a eu un certain nombre d'incompréhensions entre cette fille et sa famille, et que ces incompréhensions aient créé cette froideur et cette distance. Donc, il est peut-être nécessaire, du côté de la maman qui pose la question ici, donc la mamie, qui est la mamie du petit qui nous tombe vers la Brit Mila, eh bien, qu'elle pose la question, qu'elle se pose et qu'elle essaye de s'expliquer, notamment avec son mari. Qu'est-ce que comment on s'est comporté, finalement, qu'est-ce qu'on a pu créer chez notre fille qui établit cette distance. Je n'ose dire ici qu'il faut essayer de rentrer dans une discussion avec la fille. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que cette discussion tourne vinaigre, comme on dit. Que très rapidement, en fait, cette discussion finisse par indisposer la fille. Peut-être même que le mari va s'en mêler. Alors, si c'est le cas, c'est plutôt problématique. Et dans ce cas-là, il faut peut-être penser, plutôt que de discuter, à envoyer un mail, une lettre, un texte, pour que la fille puisse le lire tranquillement, à tête reposée. Qu'elle puisse lire. Et que dans ce texte, la maman pose la question, est-ce qu'il y a eu dans les relations que j'ai eues avec toi ou que papa et moi avons eues avec toi quelque chose qui t'a déplu? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu aujourd'hui quelque chose qui ne va pas? Alors vous allez me demander, mais est-ce que c'est bien comme ça de demander finalement à des parents de se justifier aux yeux des enfants? Alors, il est tout à fait évident que ce type d'attitude est une attitude exceptionnelle. On ne peut pas demander en permanence aux parents de se justifier vis-à-vis des enfants. C'est pas sage comme attitude. Mais dans des conditions exceptionnelles comme celle-là, où on assiste à une situation où finalement la maman est écartée de la Brit Mila de son petit-fils, elle ne va pas porter l'enfant, ce qui est quand même dommage, mais c'est quand même assez troublant. Dans ce cas-là, oui, ça vaut la peine pour les parents, pour introduire la discussion, de poser la question à l'enfant. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bécédaire, qui n'était pas... Est-ce que tu penses que tu as des choses à nous dire? Est-ce que tu as sur le cœur? Est-ce que tu en as sur le cœur à notre sujet? Évidemment, c'est en cas de force majeure qu'on peut demander ça à des parents, parce que, dans le principe, les parents n'ont pas tellement à se justifier vis-à-vis des enfants, mais d'un autre côté, ce principe était vrai dans toute sa rigueur il y a quelques générations, il l'est un peu moins aujourd'hui, dans une génération qui est extraordinairement troublée, où les positions des parents et des enfants ne sont pas toujours très claires. Donc ça vaut la peine quand même de poser la question et de discuter avec la fille. Rappelez-vous qu'on est dans le dor d'une génération de Ikveta des Meshicha, d'accord, les talons du Messie, comme on dit, comme elle dit la Gemara dans Sota, la page 49b. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui parfois un petit peu surprenante pour des parents qui auraient peut-être eu l'habitude d'une autre type d'éducation et qui voient que leurs enfants, finalement, se comportent de cette manière-là. Alors, comme on dit en hébreu, « Meinyan, Leinyan, Leotoinyan », d'un sujet à l'autre sur le même sujet, je voudrais parler avec vous aujourd'hui, finalement, de la contrainte. Je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans les relations entre le mari et la femme. Très souvent, le mari et la femme se disputent, s'affrontent, ou tout simplement sont en désaccord sur la manière de réagir vis-à-vis d'un enfant qui se comporte mal, qui ne répond pas à leurs demandes, qui ne répond pas à leurs attentes, qui ne travaille pas à l'école ou qui à la maison se montre plus insolent que les autres, plus troublant que les autres. Alors, je voudrais vous lire quand même quelques textes pour qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit. Effectivement, quand on lit nos maîtres, quand on lit nos Chachamim, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même la recherche d'une certaine rigueur. D'accord ? On nous dit par exemple que pourquoi est-ce qu'Ishmaël a quitté le droit chemin ? Ishmaël, le fils d'Abraham Avinu, pourquoi il a quitté le droit chemin ? D'accord ? Bah parce qu'Abraham avait éprouvé trop de compassion à son égard. Il n'avait pas corrigé. D'accord ? On voit la même chose pour le roi David avec Avshalom, son fils. D'accord ? Il dit, voilà, le Midrash à ce sujet-là, il dit il applique à David Hamelech au sujet de la relation avec Avshalom, Choser Shifto Sone Beno, celui qui évite le fouet, il va haïr son enfant. D'accord ? Et celui qu'il aime, eh ben, du matin, et le matin et le soir, il va lui parler de valeur morale. Donc il va lui faire la morale. D'accord ? La même chose dans Iov, par exemple, au chapitre 11, au verset 12, je vous le dis directement en français, c'est marqué là-bas que l'homme à sa naissance, il ressemble à un ânon sauvage. Un petit âne, donc il faut l'aider, il faut le... Alors, la même chose, si vous regardez la Gemara dans Baba Batra, page 21a, d'accord, Rav, qui est un des plus grands maîtres de la Gemara, on dit que Rav avait la force de rentrer en marloquette, en opposition, avec les sages de l'époque de la Mishnah, alors que lui est venu quelques générations plus tard. Bon, il a vécu très longtemps, d'accord. Alors il dit par exemple, lorsque tu veux frapper un enfant, ne le fais qu'avec un lacet de souliers. Et si un élève suit correctement en classe, tant mieux, sinon, ne le mets pas à l'écart. Donc on voit dans la Gemara déjà qu'on commence un petit peu à adoucir la chose. Alors quelle est la vraie position de nos sages ? Il faut être rigoureux ou alors il faut être dur ? La réponse, elle est très simple. Tout dépend de la génération dans laquelle on vit. La génération dans laquelle on parle ici, les générations anciennes, étaient des générations dans lesquelles les parents et les enfants étaient formatés pour recevoir les limites de manière très claire. Mais il y a environ 150 ans, un grand virage. Mais ça ne date pas seulement d'il y a 150 ans. J'ai sous les yeux, par exemple, une lettre qui a été envoyée par Rabbi Chaim de Vologine, qui écrit, Rabbi Chaim de Vologine était l'élève du Gaon de Vilna, mais avant toute chose, je voudrais vous lire une lettre du Gaon de Vilna, d'accord ? Le Gaon de Vilna dit la chose suivante. Alors, d'abord, avant le Gaon de Vilna, Rashi dit, il n'est pas nécessaire de punir un enfant, de le séparer de la classe, qu'il reste parmi ses camarades, il finira par prêter attention. C'est Rashi au sujet de cette Gemara que je vous ai citée dans le traité Baba Batra, page 21a. Donc vous voyez, qu'il n'est pas, c'est déjà à l'époque de Rashi dit attention. C'est vrai qu'il y a la rigueur d'un côté, mais il faut faire attention quand on doit mettre un enfant à l'écart dans la classe, ne pas le mettre complètement à l'écart, ne pas complètement le blackbouler, en quelque sorte, l'interdire de contact avec ses camarades. Non, il faut qu'il puisse assister au cours, simplement il faut qu'il assiste à une autre place. La même chose, le Gaon de Vilna dans Alim les Troufa, ne leur impose pas de discipline trop stricte. Agis avec douceur, car les paroles de la Torah ne peuvent pénétrer le cœur que dans la sérénité et par la douceur. Distribue des piécettes d'argent, ou tout autre moyen de les motiver à l'étude, et aie constamment ce souci présent à l'esprit. D'accord, donc on voit ici que les conseils qui sont donnés par nos sages vont dans ce sens. Alors, je voulais vous dire également une lettre qui a été écrite par un des disciples, par Rabbi Chaim de Vologine, d'accord ? À l'époque de Rabbi Chaim de Vologine, il avait un disciple qui s'appelait Rabbi Shmuel, et il a écrit un fascicule qui s'appelait Minchat Shmuel. Il dit la chose suivante, au sujet de la mitzvah de Tochacha, c'est-à-dire la mitzvah de réprimander son prochain. Il dit, chaque juif est responsable de son frère, donc il est tenu par la Torah de corriger ceux qui fauteraient en sa présence. Si on voit quelqu'un qui fait une avéra, on est tenu de lui adresser une réprimande, ou en tout cas de lui signaler qu'il ne se comporte pas comme il faut. Ça, c'est l'ordre de la Torah. Alors il dit la chose suivante. Il dit, cette mitzvah concerne celui dont les paroles sont entendues. Et de fait, elle concerne tout un chacun. Chacun, selon son élévation spirituelle ou son rang social, pourra trouver une audience chez une personne plus simple. Et même le personnage le plus effacé pourra en général faire des remontrances aux gens de sa maison ou même à ses voisins et se verra écouté. Cependant, dit cet élève de Rabbi Chaim de Vologine, qui a été l'élève du Gaon de Vilna, qui a fondé donc la première yeshiva moderne, des temps modernes, la yeshiva de Vologine. Il dit, sache qu'à notre époque, les paroles dures ne seront pas entendues. Seules des paroles dites avec douceur et persuasion le seront, elles seront écoutées. C'est pourquoi celui qui se sent incapable de parler avec douceur parce qu'il s'emporte avec force et colère contre les fauteurs eh bien, particulièrement celui-là, sa voix ne sera pas entendue. Il est dispensé, celui-là, de la mitzvah de corriger son prochain. De fait, avant même de l'avoir entendu de mes maîtres, je l'avais intuitivement compris. Et sache bien que ces brèves paroles ne te sont livrées qu'après mûre réflexion et après que j'ai vécu au contact des grands maîtres de la Torah et des justes de la génération. Sache aussi qu'elles sont confirmées par l'expérience quotidienne. Ça, c'était à l'époque de l'Yeshiva de Volozhin, c'est-à-dire il y a près de 200 ans aujourd'hui. Nos maîtres nous enseignaient déjà à cette époque que la mitzvah de Torah, de faire des réprimandes, elle n'est réservée qu'aux gens qui savent ne pas s'emporter, ne pas être colérique. Alors encore plus, vous allez me dire, dans la mitzvah d'éduquer un enfant. D'accord, parfois l'enfant va faire des bêtises, on va donc lui adresser des réprimandes. Est-ce que l'obligation de réprimander, eh bien, un père ou une mère qui serait coléreux en serait complètement dispensé? Réponse, oui. Oui, parfaitement. Un père et une mère qui ne savent pas s'exprimer avec, parfois, fermeté, mais en tout cas avec douceur, parfois avec rigueur, mais en tout cas toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection avec leurs enfants, qui ne savent pas abreuver leurs enfants de mots gentils, « Viens mon tzaddik, viens ma tzaddeket, mon ange », qui ne savent pas dire ce genre de choses à leurs enfants, sont effectivement complètement dispensés d'adresser des torahot à leurs enfants. Il vaut mieux qu'ils se contentent de prier pour leurs enfants, qu'ils se contentent de les féliciter lorsqu'ils font quelque chose de bien, mais il faudra qu'ils apprennent, il faudra qu'ils aient chez quelqu'un qui va leur apprendre à adresser des réprimandes comme il convient, parce qu'il faut bien dire qu'un enfant, parfois, bien sûr, doit être réprimandé. Mais est-ce que pour autant un enfant doit être brimé? Non. Est-ce qu'un enfant doit être humilié? Certainement pas. Est-ce qu'un enfant doit être malmené? Non. Est-ce qu'un enfant est, finalement, le porte-bagage des frustrations de l'adulte, de ses difficultés, de tout ce qu'il a à subir? Bien sûr que non. Et alors, très souvent, dans les couples, l'attitude des parents vis-à-vis des enfants fait l'objet de très nombreuses disputes. Parce que les parents ne sont pas d'accord. Il y a un qui est plus rigoureux, l'autre qui est moins rigoureux. Comment des parents vont s'accorder lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur la manière d'éduquer les enfants? Je crois que la meilleure manière de faire dans ces cas-là, c'est d'aller voir un rav. C'est d'arbitrer. Là, ici, je crois qu'il faut arbitrer, parce que les enfants, il faut le savoir, ce sont des neshamot, ce sont des âmes que Hachem a déposées chez nous, il les a mis en dépôt, et nous, on doit rendre le dépôt le plus intact possible. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est qu'un enfant dans nos générations, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, un enfant avec lequel on se conduit durement, soit en lui criant dessus, soit en le frappant, soit en l'humiliant, en le rabaissant, est un enfant qui développera beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère et de rancœur. Et c'est un enfant qui, très rapidement, on n'a pas besoin d'attendre l'âge de 18 ans ou 20 ans, mais très rapidement, dès l'âge de 13-14 ans, c'est un enfant qui se rebellera contre ses parents, religieux ou non. Un enfant de 13-14 ans qui a été brimé, qui se sent brimé, est un enfant qui soit rentre en dépression, au sens où, si vous voulez, il perd de sa capacité d'expression, ou alors sinon, c'est un enfant qui va complètement exploser et qui va devenir, comme ses parents, très coléreux et très vindicatif. Donc je crois que c'est tout à fait fondamental de garder ça en tête. Ça ne répond pas à la question qu'on a traitée au départ sur la relation entre cette maman et sa fille. Je crois que là, ici, il faut que, là, comme j'ai dit, le papa et la maman se posent un certain nombre de questions, essayent de réfléchir. Mais en tout cas, une chose est sûre, il est certain qu'un enfant qui a été brimé est un enfant qui ne peut pas avoir de relation sereine avec ses parents. On l'a dit également dans d'autres cours, il y a un cours notamment que j'ai mis sur le site entre la relation parent-enfant lorsque l'enfant fait échouva et que les parents n'acceptent pas trop cette échouva, c'est que très souvent, il y a aussi chez les parents le rejet. Eux-mêmes ont été rejetés, eux-mêmes ont été maltraités, n'ont pas été voulus. Alors le rejet, ça peut être que par exemple, la maman, quand elle est née, ben, sa maman, elle voulait un garçon, par exemple. Elle a été complètement rejetée en tant que fille. Ça peut être un enfant qui a été rejeté parce que les parents ne savaient pas donner d'éducation. Donc cet enfant qui est né, bah, il les a dérangés. Et puis finalement, ils l'ont constamment dénigré ou repoussé. En tout cas, ils ne lui ont pas donné beaucoup de confiance en lui. Ça existe, ce genre de choses, on le voit. D'accord ? Alors eux-mêmes, les parents vont importer ce modèle aussi sur leurs propres enfants et donc vont les rejeter lorsqu'ils ne vont pas répondre à leur attente ou lorsqu'ils ne vont pas aller dans le sens de ce qu'eux veulent. D'accord ? Ils vont avoir du mal à accepter donc les changements de l'enfant. Et donc, si vous voulez, des parents qui ne sont pas habitués à aimer inconditionnellement un enfant et qui n'ont pas été eux-mêmes aimés de manière inconditionnelle sont donc des gens qui ont beaucoup de difficultés avec les enfants. Alors c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup et qui va également intervenir dans la vie de couple. Parce que là, ici, le conjoint qui assiste à ce spectacle, lui, il a tendance à intervenir avec beaucoup de force. Et donc, il va provoquer une situation où le conflit va être beaucoup plus dur. Donc je crois que dans ces situations, c'est urgent de consulter d'abord. Je pense qu'il faut consulter. Vous savez, chez les Français aujourd'hui, on commence à avoir l'habitude de s'entourer, hein, de comprendre que le mariage, l'éducation, la parnassa, le domaine du travail, ben, ce sont des domaines dans lesquels il faut être conseillé. Donc d'aller voir des gens qui sont très spécialisés sur le sujet, prendre le temps de consulter, mais surtout dans un premier temps, savoir, essayer de se mettre à la place de l'enfant et de comprendre que cet enfant un jour aura 30 ans, qu'il aura 40 ans. Et qu'en fait, l'attitude que j'ai avec lui aujourd'hui, quand c'est un petit bambin, quand il a 5 ans, quand il a 10 ans, quand il a 15 ans, quand il est entre mes mains, l'attitude que j'ai, c'est comme si je déposais dans son placard, d'accord, des objets qu'il va emporter dans la vie. Alors je peux déposer des choses qui sont douces et agréables, des bonbons, des sucreries, ou alors je peux déposer des verres de mixture imbuvable et en même temps l'obliger à le boire. Et donc l'enfant, il va transporter ça toute sa vie. Soit c'était imbuvable, soit c'était doux, mais il va le transporter toute sa vie. D'accord ? Et donc il va si c'est imbuvable, il va effectivement complètement en souffrir. Donc je crois que c'est fondamental avoir toujours cette bonne mesure dans la relation avec l'enfant, et donc ça permettra surtout de que les parents soient un peu en harmonie dans l'éducation de l'enfant, parce que très souvent les parents ne sont pas en harmonie. Et quand il y en a un qui est trop virulent, notamment, ou un qui est parfaitement, complètement négligent, bien l'autre réagit en quelque sorte avec force. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants, on les fait à deux, comme vous le savez. Enfin bon, il y en a un qui est sur une croix depuis quelques 2000 ans, qui on a fait croire que ça ne se fait pas à deux, mais sinon, nous, on sait que les enfants se font à deux, donc ils s'éduquent aussi à deux. Et puisqu'ils s'éduquent à deux, donc je pense qu'il faut savoir écouter, en tout cas, les interrogations du conjoint et ses éventuelles demandes, d'accord ? Se dire que parfois, on peut se tromper dans l'éducation de nos enfants et que très souvent, notre conjoint, lui, n'a pas nos défauts, et donc il arrive à voir les nôtres, et donc il arrive aussi à nous dire, attention, là, on est peut-être dans un problème, ce serait peut-être intéressant qu'on fasse un peu plus attention. Voilà, mes chers amis, on en a terminé avec cette première partie. Alors, on va s'arrêter maintenant avec une petite pause de musique. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous pouvez poser vos questions sur radio@torah-box.com. On fait une petite pause de musique et on se retrouve après pour la deuxième partie de cette émission consacrée à l'astrologie. Et vous verrez que c'est un domaine qui inquiète énormément et qui pose son empreinte très souvent dans la vie familiale. Allez, un petit peu de musique et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission.
Hashem Moli. Na 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 panti kamti, el na 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 zakti, Shema na na bikashti, tagid li ki. Na 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 panti kamti, el na 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 zakti, Shema na na bikashti, Hashem Moli.
Shalom Aleichem, bienvenue donc de retour sur notre émission Famille, je vous aime. Alors je voudrais parler avec vous maintenant dans cette deuxième partie d'astrologie. Alors pourquoi je veux parler avec vous d'astrologie ? Très souvent les gens me demandent, mais est-ce que vous intéressez aux signes zodiacales des gens qui viennent vous consulter ? La réponse est oui, je m'y intéresse, mais est-ce que c'est quelque chose de déterminant ? Réponse non. Alors pourquoi vous vous y intéressez ? Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? Je vais y chercher ce que la Gemara dans Shabbat, à la page 156, nous dit au sujet de la personne qui est née sous l'influence de Mars. Mars, en hébreu, ça s'appelle Ma'adim. Ma'adim, ça fait appel aux dames, au sang. Cette personne, nous dit la Gemara, elle va verser le sang. Mais alors, elle a quatre manières de verser le sang. Elle peut être chirurgien, elle peut être moelle, donc faire des circoncisions, elle peut être chochette, elle peut être abatteur rituel, donc faire que les gens mangent de la viande cachère, ou alors elle peut être assassin, elle peut être voleur. On s'aperçoit donc qu'en fait, les trois quarts des inclinaisons possibles des influences de cette planète Ma'adim, donc qui est réputée être une planète terrible, c'est la planète terrible, d'accord ? On voit que trois quarts de ces influences sont des influences positives. À l'inverse, par exemple, on dirait que quelqu'un qui est né le lundi serait un Baal Machloket. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est le jour où le monde a été les eaux d'en bas, les eaux d'en haut ont été divisées. Donc c'est le premier jour de la division, c'est le jour de la création du Géhinnom. Troisième jour, c'est le jour où la terre va apparaître, Hachem termine son travail, mais c'est un jour dans lequel on dit que celui qui est né le mardi, il serait débauché, riche et débauché, ou riche ou débauché. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Alors quand on lit la Gemara, on comprend tout de suite qu'en fait, plus on s'éloigne du Shabbat, plus le mazal est problématique. Plus on se rapproche du Shabbat à partir du mercredi, du jeudi et notamment du vendredi, là le mazal est positif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'Agma est en train de nous dire ? Que selon le jour où on est apparu dans le monde, la date, l'heure, etc., on est déterminé par quelque chose. Le langage de l'Agma a l'air d'être comme ça. Alors, je voudrais vous lire tout simplement ce qui se passe pour le mois de Kislev. Là, au moment où j'enregistre, on est quelques 10 jours avant Hanouka, on est au mois de Kislev, et donc c'est le mazal du Sagittaire. D'accord ? Alors, quand vous regardez ce mazal du Sagittaire, vous regardez dans nos textes, bon, vous voyez, c'est donc c'est le mazal du mois du mazal qui est lié à Hanouka. Donc, on va dire que c'est à peu près c'est quelque chose qui serait plutôt positif, d'accord. Dans le livre de Yov, au chapitre 31, verset 24, il écrit Im Samti Zahav Kisli. Kisli qui fait référence à Kislev, d'accord. Ai-je mis ma confiance dans l'or? Ai-je dit au métal fin, c'est Yov qui parle, j'avais ma confiance dans le métal, d'accord ? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans l'or, etc. Et là, ici, le mot kisli, kessel, d'accord ? Il signifie également couverture et bouclier. Alors, Ibn Ezra dit que dans les proverbes, d'abord, là c'est marqué que Hachem est mon appui, d'accord ? Hachem sera ton appui. D'accord ? Et Kessel, le mot Kessel, ça représente la pensée, l'espoir. Très bien. Maintenant, quand on regarde un petit peu, on rentre un petit peu dans les détails. Donc on a ici un mois qui est extraordinairement positif, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Mais d'un autre côté, voici ce qui nous est dit dans d'autres textes. C'est qu'une certaine manière, dans la conception du Zohar, de la Kabbalah, l'astrologie, d'accord ? Elle est au service du corps et de la matière, c'est-à-dire... Finalement, les influx que Akadosh Baruch Hu donne à l'homme au niveau du mazal, ils sont au service du corps et de la matière. D'accord ? Alors en fait, ça, c'est une force formidable, le mazal. En fait, c'est une série de forces que Hachem donne. Mais c'est un jouet absolument extraordinaire. C'est comme si on mettait, en quelque sorte, un jouet d'une puissance extraordinaire, mais à la disposition d'un homme qui s'en servirait un peu comme un joujou. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la chose suivante, c'est qu'en fait le Sagittaire, donc cette personne qui est née en Kislev, d'accord ? Cette personne-là, elle est dotée d'une puissance et d'une force sur le plan spirituel absolument extraordinaire. Elle peut aller au plus haut niveau. Si elle les canalise dans la voie de la Torah, ok, c'est bon. D'accord ? Mais si elle les canalise dans quelque chose qui est complètement profane, en faisant fi de la Torah et des mitzvot, ça ne va pas marcher. Alors, quel exemple on cite d'une personne qui est née au mois de Kislev et qui avait une puissance absolument extraordinaire, Baruch Spinoza. Le philosophe Baruch Spinoza. D'accord ? Il a eu, c'était un philosophe d'une puissance extraordinaire. C'est quelqu'un qui a pesé sur la philosophie occidentale. Mais d'un autre côté, du fait que c'est quelqu'un qui a complètement dévié dans la Emouna, il en est arrivé à des conclusions complètement erronées, et il a quitté complètement la Torah. Il a même été rejeté par les rabbinim de son époque, d'accord ? Et finalement, bah, il a été tourmenté, il avait beaucoup de perplexité, puis finalement, il a fini par tout laisser tomber. D'accord ? On va nous dire également que le Sagittaire, lui, il veut de l'aventure. Il a des désirs qui s'expriment dans plein de domaines. D'accord ? Mais si ce n'est pas contrôlé, ça va lui être complètement nuisible. Il va perdre. Il n'arrivera pas à sortir ce qu'il y a de mieux chez lui. Alors, quand on voit par exemple l'attitude des Juifs pendant le mois de Kislev, ils ont complètement plié les Chines devant les Grecs, jusqu'au moment où ils se sont relevés et ils sont partis en guerre. Pourquoi je prends pourquoi j'aligne ces données ici ? Il faut savoir que l'astrologie est précisément le contraire de la détermination. L'astrologie comportementale, c'est-à-dire la prise en compte du mazal d'un individu, le jour de la semaine où il est né, le mois dans lequel il est né, l'heure du jour à laquelle il est né, d'accord ? La ville, l'endroit, toutes ces choses-là sont des choses qui constituent un cadre. Mais ça constitue un cadre qu'on peut utiliser positivement ou pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord ? Donc très souvent, les gens disent « Ah, cette personne, oui, elle est très créative, elle a de grandes aspirations, c'est un Sagittaire, il est né en Kislev. » Très bien, mais vous n'avez pas tout dit. Parce qu'en fait, cette personne-là peut utiliser ses aspirations de manière positive ou négative. Donc, il faut savoir que le mazal chez nos sages, dans la Gemara, dans la Kabbale, et à tous les niveaux, le mazal n'est qu'un cadre. Et qu'en fait, c'est une série de prédispositions, de dispositions de caractère qui vont faire que l'individu dispose d'un certain nombre de forces. Mais c'est à lui de choisir ce qu'il va en faire. Et là, le Bechira, le choix, il est entier à l'intérieur de cet espace. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas... qu'il ne faut pas dévier, qu'il ne faut pas défier, qu'il ne faut pas oublier. Alors on nous dit également que, par exemple pour le Sagittaire, donc le mois de Iov, d'accord, l'astre qui va dominer, c'est Tzedek, on l'appelle Tzedek, c'est Jupiter, d'accord. Alors effectivement, ça s'est vu à l'époque de Hanouka, parce que effectivement le Tzedek, la justice de Am Israël, d'accord, la moralité d'Israël et sa pureté ont vraiment été reconnues publiquement. Mais d'un autre côté, une personne qui serait excessive dans cette midala et qui se comporterait durement avec les autres, qui les jugerait parce qu'elle dirait comment ça se fait, moi j'arrive à être tzadique et ces personnes-là n'arrivent pas à se travailler pour devenir des tzadikim. Alors cette personne-là aurait un grave problème parce qu'elle utiliserait quelque chose de positif pour détruire. Donc là on a un problème. Effectivement, j'ai eu deux questions de ce genre cette semaine. Ce sont des gens qui m'ont demandé, est-ce que pour vous l'astrologie est déterminante ? Est-ce que vous regardez l'astrologie avant de marier les gens ? La réponse est non. Non, non, 10 fois non, 1000 fois non. On ne regarde pas l'astrologie avant de marier des gens. Et ça, par exemple, bien que l'astrologie comportementale nous donne des définitions dans les caractères, non, ce n'est pas une chose que nous allons regarder. Nous allons regarder les familles. Nous allons regarder l'éducation. Nous allons regarder les midot des familles, les traits de caractère des familles. Oui, ça, on va regarder. On va regarder le projet que le mari et la femme ont ensemble. On va regarder, effectivement, aussi le fonctionnement. Le nefesh, ce qu'on appelle le nefesh, que je traduis ici, que j'explique plutôt par le mot fonctionnement, le fonctionnement finalement du garçon et de la fille, est-ce que ce sont des gens qui peuvent s'accorder ? Est-ce que ce sont des gens qui ont des caractères qui s'accordent ? Oui, ça on va le faire, bien sûr, parce que ça ce sont des choses qui sont complètement déterminantes. Mais se baser sur le mazal, en tout ou partie, dans une décision de Shidour, c'est faire une grave erreur. Parce que c'est utiliser le mazal pour ce qu'il n'est pas. Le mazal, ça n'est absolument pas une manière de figer les choses et donc de dire, puisque cette personne est née sous tel mazal, elle peut se marier avec telle autre personne. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est que quand une personne est née sous un certain mazal, un certain nombre d'inclinations de caractère, il faut voir après comment ça s'exprime chez elle. On l'a dit ici pour Spinoza. Le grand Spinoza, le philosophe Spinoza, était un tout petit minable face à son yetzera, et donc il a face à son mauvais penchant, et donc il a, à un moment donné de sa vie, complètement dérivé. Alors, il faut savoir que même l'étude de l'astrologie, c'est-à-dire comprendre l'astrologie, notamment l'astrologie juive, nos sages il soit un petit peu circonspect hein, sur le sujet, d'accord. Ils nous disent plutôt, ils s'appuient plutôt sur le pasouk de la Torah qui est Tamim Ti Mashem Elokecha, d'accord. Et donc faire extrêmement attention, d'accord. Ça c'est le Shulchan Aruch qui est écrit, d'accord, dans chapitre 179, à l'Alacha 1. On n'a pas le droit d'interroger les astres, d'accord. Et certains considèrent qu'il y a même une défense thoraïque explicite sur ce point-là, d'accord. Également le Rama, le grand décisionnaire ashkénaze sur 179 dans Yoredea 179.2, qui écrit que celui qui a entendu la prédiction d'un astrologue est en droit de la prendre en considération et ne doit certainement pas s'engager dans une direction contraire à ce qui lui a été dit, car il est interdit d'attendre passivement un miracle, un salut miraculeux. Alors là, on parle ici de l'astrologie, cette fois-ci de l'astrologie de prédiction, mais il faut savoir que pour l'astrologie comportementale, c'est à peu près la même chose. On ne peut pas enfermer un individu dans ce qu'on croit avoir compris donc du mazal. Il faut être plutôt distant par rapport à ça et comprendre que et la manière dont l'individu se comporte et la manière dont il exerce sa béchira, son libre arbitre, sa capacité de choisir est mille fois plus fondamentale pour lui et déterminante. Donc dans les shidduchim, dans les mariages, on commence d'abord par le commencement, le caractère du garçon et de la fille, leurs projets, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, leur relation avec leur famille, puis ensuite les familles, comment, ce qu'ont été les familles, le milieu dans lequel ils ont grandi. Et en dernier lieu, comme une petite cerise sur le gâteau, s'intéresser à leur mazal. Mais il ne faut absolument pas que ce qui nous apparaîtrait comme un mazal un peu contradictoire puisse gêner un chidour, chas v'shalom, que ça puisse l'interdire. Je crois que c'est une très très grave erreur, parce que finalement, ça peut conduire les gens, en fonction de critères qui restent malgré tout des critères aléatoires, ça peut conduire les gens à des ruptures, et je crois que c'est tout à fait dommageable. Nachmanide, par exemple, écrit que le décret des astres est un fait miraculeux sur lequel repose toute la Torah. Mais le juif, par son libre arbitre et son engagement dans la voie de la Torah et des commandements divins, s'élève au-dessus des prédestinations astrales. D'accord ? Donc vous voyez ici que on peut parfaitement être dans un certain mazal, d'accord. Mais le Ramban, Nachmanide, qui était un grand kabbaliste, d'accord, qui était un des grands maillons, des maillons les plus importants dans la chaîne de la transmission de la Kabbale, il dit attention, à partir du moment où quelqu'un fait la Torah et fait les mitzvot, il s'élève complètement au-dessus du mazal. Et là aussi, on a le deuxième aspect des choses. Une personne qui fait Shabbat, qui mange kasher, une personne dans le monde dans lequel aujourd'hui, qui choisit la tzniut, et qui la choisit dans l'harmonie, dans l'épanouissement, est tout à fait évident que cette personne est, d'une certaine manière, peut être classée parmi la catégorie des gens qui ne sont pas victimes de leur mazal. Le problème avec le mazal reviendra lorsque une personne qui fait des mitzvot a un sale caractère, et que si elle est coléreuse, elle se laisse aller à la colère, dans les traits de caractère négatifs. Là, oui, on peut dire d'une certaine manière qu'une personne va retomber sous l'influence d'un mazal, et notamment d'un mazal qui serait négatif. Imaginons, par exemple, une personne qui serait née le lundi. La Gemara dit là-bas, elle parle de gens qui sont nés le lundi, donc c'est plutôt des balais marloquettes, qui sont des gens qui vont se disputer, qui sont des gens qui ont des inclinaisons négatives. Si cette personne se laisse complètement aller à la colère, manger par la colère, si en toutes circonstances elle se manifeste avec colère, eh bien, elle reviendra en quelque sorte sous l'emprise de son mazal. Mais si elle jugule sa colère, ou si au contraire elle utilise l'énergie de la colère pour expliquer à des gens qui ne sont pas dans la Torah et les mitzvot, par exemple, mais avec douceur, donc elle combat sa colère, expliquer donc l'intérêt de faire Torah et mitzvot, cette personne va utiliser l'énergie de la colère, qui est une énergie de rébellion. Je n'accepte pas ces situations. Je n'accepte pas que des gens ne fassent pas la Torah et les mitzvot. Mais elle va l'utiliser avec douceur. Elle va savoir s'exprimer avec douceur, avec compassion. Donc elle va faire ici deux réparations. D'une part, elle va utiliser l'énergie qui consiste à dire quelque chose aux autres. Eh bien, elle va le faire, mais de manière positive, et en même temps, elle va le faire avec douceur, ce qui fait qu'elle va complètement éteindre sa colère. Et combien n'a-t-on pas vu de certains de nos maîtres qui auraient pu être des grands coléreux et qui ont su, en toutes circonstances, garder leur sang-froid et réagir donc toujours avec sang-froid, avec distance, et donc ne pas se laisser donc emporter. Donc, c'est tout à fait fondamental. Bien comprendre que, par définition, Israël est au-dessus des forces de la nature, au-dessus du mazal, que le mazal, dans le fond, et ça c'est ce qui est fondamental, n'a pas de prise sur lui, et que le juif n'est déterminé par aucune étoile ou aucune conjonction. Ça, c'est la Psikta Rabbati, dans le chapitre 4, Psikta Rabbati. Donc il faut bien se rappeler de ça au départ, bien qu'il y a des textes de la Gemara qui nous parlent de l'emprise possible du mazal sur certaines personnes, ça reste malgré tout quelque chose qui peut être combattu parce que le libre-arbitre existe et que c'est la manière dont nous utilisons notre libre-arbitre qui fait toute la différence. Voilà mes chers amis, on va s'arrêter ici après cette deuxième partie, on se retrouve après pour la troisième partie, donc on s'arrête pour une petite page de publicité. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur radio@torah-box.com. On se fera un plaisir d'y répondre, qu'il s'agisse de la famille, des rapports dans le couple, des rapports avec la belle-famille, des rapports avec les enfants. On est là pour traiter vos problématiques et avancer. Rendez-vous dans quelques minutes après une page de publicité sur Famille, je vous aime avec notre troisième partie.
A tout de suite avec Famille, je vous aime.
Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel. Avec le service Question au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, kashrout, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.
Famille, je vous aime, c'est une heure avec le Rav Mordechai Bitton pour parler de votre couple, de vos enfants, de votre famille.
Shalom Aleichem, bienvenue donc de retour sur Famille, je vous aime avec votre serviteur Mordechai Bitton. Je vous rappelle le principe de l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions sur radio@torah-box.com. On les traite, on nous les envoie et on y répondra soit dans le cadre de cette émission, soit plus tard, donc soit par mail. Mais en tout cas, on répondra à vos questions. Alors, une dame m'écrit. En France, on est confronté à la mixité tous les jours. Elle me dit qu'elle est tombée amoureuse donc, d'une personne qui n'est pas juive, une religion opposée à la sienne. Elle dit « Je tiens à ma judaïté et j'ai très peur de m'en éloigner. Je reste avec cette personne que j'aime. » Bon, évidemment, sa famille est contre. D'accord ? Elle l'a lâché. Et comment trouver le courage de partir ? Comment trouver la force donc, de quitter cette histoire ? Donc la personne ici est vraiment perdue. Alors c'est très intéressant cette question parce qu'elle repose très souvent sur un malentendu finalement dans le couple. Je crois qu'on confond beaucoup, pour certains d'entre nous, le bonheur et le plaisir. C'est deux choses complètement différentes. Lorsque cette madame écrit en disant voilà, elle a rencontré cette personne, bon, elle vit certainement un bonheur, d'accord. Mais d'un autre côté, elle se rend bien compte que le mariage, ça n'est pas que le bonheur. L'amour, ça n'est pas que le plaisir, bonheur, plaisir, amour. Comment ça marche, tout ça ? D'accord ? C'est un peu ce qui se passe derrière cette question-là. Alors, effectivement, ce que je conseillerais, c'est de partir le plus vite possible. Au stade où elle en est maintenant, elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas clairement d'engagement vis-à-vis de sa personne, si ce n'est un engagement, évidemment, sentimental très fort, puisqu'elle l'aime. Donc, c'est une personne, effectivement, avec laquelle elle va devoir s'accorder d'une certaine manière. Mais, d'un autre côté, elle n'est pas passée à la mairie, elle n'a pas signé de contrat avec cette personne, elle ne vit pas dans la même maison, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Donc il est temps, puisqu'elle se pose la question, de prendre la bonne décision et de comprendre. Mais de comprendre quoi exactement ? D'abord de comprendre que le mariage, c'est aussi une affaire socio-culturelle. Je vais expliquer ce qui se cache derrière ce mot un petit peu savant. Même pour des gens qui vivent dans la Torah, on va chercher à marier des gens, les gens ensemble en fonction d'une certaine adaptation. Je veux dire, les gens auront au moins un projet en commun. Par exemple, ça peut être un avraire argentin qui épouse une jeune fille française. Ils parlent tous les deux hébreu, mais ils ont en commun en tout cas une chose, Ils veulent que le mari étudie la Torah, devienne un Talmid Chacham, que leurs garçons deviennent des Talmid Chachamim, que leurs filles soient des Chet Chaver, des filles qui deviendront des épouses et des compagnonnes donc de Talmid Chachamim. Ok, jusque-là tout va bien. Ça veut dire qu'on peut venir de deux extrémités du monde, l'Argentine et la France, et se retrouver en Israël sur un projet commun. Et c'est valable dans toutes sortes de milieux. Même dans les milieux, par exemple, sionistes religieux, vous voyez très souvent des gens qui partagent ce même idéalisme d'habiter en Eretz Israël, de faire l'armée, de combattre pour leur idéal, et finalement, vont se réunir, on va trouver des gens qui viennent donc de milieux extrêmement différents. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent un projet commun. Et donc le mariage est d'abord, c'est ça qu'il faut comprendre, une affaire socioculturelle. C'est pas seulement une affaire d'amour, de sentiments, c'est aussi une affaire qui consiste à partager un projet. Donc à partager des valeurs, donc à partager un vécu dans ce projet, dans ces valeurs, évidemment, tout le monde le comprend. Et donc lorsque cette question se pose avec un conjoint non-juif, il faut savoir que tôt ou tard, avec un conjoint non-juif, il y a une question qui se pose. C'est la question de la fidélité du conjoint juif à son peuple, à ses coutumes, à sa jeunesse, à ses origines. Cette question se pose, c'est-à-dire que à partir du moment où la question a été posée, elle existe avant le mariage. On ne parle pas ici de gens qui seraient complètement assimilés, complètement détachés de leur peuple, du peuple juif, ou de la tradition, ou complètement détachés de la Torah. D'accord ? Des gens qui ont cette attache pas minimale, mais une attache, et qui sont donc un petit peu déchirés entre cette affection, cette fidélité, et en même temps, cette affection, cet amour, et en même temps, de l'autre côté, tout ce qu'ils vont devoir assumer comme rupture. Ces gens-là, il est important pour eux de mettre fin à cette relation. Parce qu'effectivement, le mariage, c'est une affaire socioculturelle. Il faut arriver à trouver un conjoint juif. Et il y en a, ça ne manque pas. Des conjoints juifs qui soient des gens avec lesquels on puisse s'accorder, avec lesquels on a des projets communs. Alors, il va savoir autre chose, c'est qu'avec le conjoint juif, il y aura effectivement un fort yetzera de toujours lui trouver tous les défauts de la terre pour se justifier finalement de choisir un conjoint non juif. Je crois que là, le conseil qu'on peut donner, c'est comprendre que la première chose à faire, c'est de bien comprendre qu'il y a ici une affaire de valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et qui paraît peut-être parfois surprenante à nombre d'entre nous, c'est que le bonheur et le plaisir, c'est deux choses complètement différentes. Le bonheur, c'est un état. Mais l'amour et le bonheur doivent être mis en rapport avec le travail. Le travail qu'on fait pour parvenir à des situations de bonheur, à des situations de satisfaction. Et ça, c'est fondamental. Les gens l'oublient. Il y a deux écoles dans la vie. Avant de se marier, on passe par la pire des écoles pour réussir son couple. C'est l'école de la famille. Là, les familles, on donne pratiquement sans aucun rapport avec ce que donne l'enfant. Par contre, dans la vie, on donne en fonction de ce qu'on investit. Donc, il y a ici quelque chose qui est fondamental à régler. C'est que il faut savoir que quand on rentre dans un couple, on rentre pour donner, on rentre pour travailler. Et que la première chose qu'il faut donner dans un couple, c'est la légitimité. La légitimité au vécu de l'autre, au sentiment de l'autre. D'accord ? Souvent, dans une discussion sur des idées, on peut facilement donner une légitimité à l'autre. Lorsque la femme, par exemple, demande au mari d'être aidé dans des tâches ménagères parce qu'elle est un petit peu débordée, tout le monde comprend que c'est légitime. Mais quand on commence à parler de nos sentiments, de nos ressentis, de la manière dont on a vécu certaines situations, ici s'installe parfois l'irrespect et le manque de légitimité. On ne va pas légitimer l'autre, on va dire, mais c'est bizarre les réactions qu'il a, ou qu'elle a. Et donc on va rejeter. Et donc ça c'est extrêmement problématique, et il faut savoir que le mariage, c'est d'abord l'école du travail, et que pour arriver au bonheur et à l'amour dans le mariage, il faut beaucoup travailler. C'est un des fondamentaux du couple. Et ça les gens l'oublient, et ils l'oublient d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un conjoint qui, en fait, est un conjoint hors tradition. C'est-à-dire quelqu'un qui, finalement, n'est pas en accord avec leur tradition familiale ou avec, les valeurs de la famille. Ils préfèrent aller regarder ailleurs. Ils disent, finalement, je suis heureux avec cette personne, je suis content avec cette personne, c'est ce qui compte. Mais complètement une chose, c'est que le mariage, c'est une construction. Et comme c'est une construction, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se retrouver avec quelqu'un qui est très différent de nous, qui a des valeurs complètement différentes des nôtres, et avec lequel il va falloir construire, avec lequel on va souvent se disputer sur des choses parfois complètement fondamentales. Donc il y a ici un problème, je pense, auquel il faut réfléchir, et qui est un problème fondamental, parce que c'est ce qui détermine finalement la réussite d'un couple. Alors autre question qui m'a été posée, cette fois-ci toujours dans la mixité, une personne sfarade, une personne ashkénaze qui se marie, mais les familles sont vraiment complètement ashkénazes et complètement sépharades, en l'occurrence tunisiennes et russes. Donc c'est des familles d'origine russe, hein, c'est des familles ashkénazes, donc qui sont installées en France avec des parents qui sont d'origine russe, et une famille donc tunisienne qui est venue en France, etc., qui s'est installée. Et là, on trouve donc le garçon et la fille qui viennent donc de familles avec des traditions complètement différentes. Crainte du garçon, est-ce que la fille va s'entendre avec ma famille? Est-ce que moi-même, je vais pouvoir m'entendre avec ma belle-famille? On est très, 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 très différents. Alors là, on va prendre le parti inverse de ce qu'on a dit à plusieurs reprises dans cette émission. Il faut se rappeler que, avant toute chose, on a d'abord une chose qui est fondamentale, c'est que quand on va se marier, c'est vrai, on se marie aussi avec les belles-familles. Contrairement à ce que les gens pensent, on ne se marie pas qu'avec son conjoint, on se marie aussi avec les belles-familles. Alors je crois que concernant les traditions, on va dire culturelles, d'accord, les minagim, concernant, on va dire, le vécu des familles, au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau des traditions, il ne faut pas trop s'inquiéter. Ce qui est important, c'est surtout de regarder les midot de la famille. À partir du moment où les midot, les traits de caractère, sont sont agréables. On a affaire ici à des gens qui sont agréables, à des gens qui sont à l'écoute de l'autre, qui sont prêts à partager, des gens qui sont ouverts à l'autre, qui sont ouverts à la culture de l'autre. Alors effectivement, là je pense que tous les espoirs sont permis, parce que c'est finalement dans cette diversité que finalement vont se constituer ici des couples complètement extraordinaires. Cette diversité, elle est tout à fait extraordinaire. Et donc elle peut, pour les enfants par exemple, être porteuse d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, et ça c'est tout à fait fondamental. Cependant, là où on peut mettre un bémol, c'est quand les familles elles-mêmes commencent à exprimer des réticences. Parce que là, ici, la question qui est posée, la réticence qui est posée ici, c'est une réticence du khatan et de la kala, c'est-à-dire des deux qui vont se marier, est-ce que finalement on fait bien? Le problème, et donc à cet égard-là, je pense que le problème ne se pose pas trop. Mais par contre, là où le problème se pose, c'est quand les familles deviennent réticentes. Quand la famille ashkénaze ou la famille sfarade dit « Ah non, c'est problématique, c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes minagim, on n'est pas du même endroit, qui dit qu'on va s'entendre, c'est pas si simple que ça, etc. etc. » Et on commence à faire pression sur le khatan et la kala pour qu'ils arrêtent cette histoire tout de suite, cette histoire qui n'a aucune chance d'aboutir, etc. etc. avec ce genre d'argument. Ah oui, on est dans un problème. Il y a un problème qui est plutôt difficile à gérer, pour une raison qui est très simple, c'est que on pourra pas faire fi de l'opposition des familles. Parce que comme je vous l'ai dit, on se marie, c'est vrai. Le conjoint, les deux conjoints se marient, oui, le monsieur et la madame, c'est vrai. Mais les familles sont là. Même quand les familles ne sont pas intrusives, à partir du moment où les familles sont réticentes, elles le deviennent de fait. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème, et c'est un problème assez grave, et c'est un problème qui a existé dans de très nombreux cas, et au niveau du chidour, au niveau de la rencontre, au niveau des fiançailles, ça vaut encore la peine, il n'est pas trop tard pour se poser des questions, ça vaut encore la peine de se poser des questions et de se dire, attention, voilà, on va peut-être réfléchir. Si les familles elles-mêmes sont contre, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir, d'aller voir un rav, d'aller voir une autorité, d'abord, de consulter et de recevoir un psaque et d'être surtout très entouré dans sa décision. Après, si on décide malgré tout d'avancer, parce qu'on n'est pas tenu d'écouter les parents sur le zivoug, hein, quand les parents s'opposent à un zivoug, c'est à un mariage, on n'est pas tenu de les écouter, mais on n'est pas tenu non plus de leur rentrer dedans et d'être désagréable et de rentrer en conflit avec eux. On est tenu d'expliquer les choses. Les voies de la Torah, elles sont noam, elles sont agréables. Le chol netivote à shalom, et ces chemins, ces sentiers, ils doivent amener vers le shalom. Donc quand il y a un conflit, il faut sortir du conflit. Il ne faut pas installer un conflit pour 30 ans. Donc il va falloir, si on décide de se marier, il va falloir quand même malgré tout expliquer les choses aux parents, et expliquer quand même l'intérêt qu'il y a à se marier avec telle personne, et pousser les parents à prendre en considération plutôt les midot et les traits de caractère, et le fait que ça colle, le fait que ça marche, plutôt que des traditions familiales. Troisième question qui m'a été posée également... Cette fois-ci, une question qui concerne cette fois-ci des gens qui ne parlent pas la même langue. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir des couples, vraiment, on peut se demander comment ils ont réussi à se marier. Il y a des gens qui ne parlaient pas la même langue. Ils viennent de pays complètement différents, de traditions complètement différentes. L'un des deux, ou peut-être même les deux, sont des convertis. Et en fait, ils partagent vaguement un hébreu qu'ils ont du mal à baragouiner, vaguement un anglais qu'ils parlent déjà un peu mieux, mais malgré tout, c'est pas ça. Et donc, ils se marient. T'as des gens qui ont non seulement des traditions différentes, mais qui ne peuvent même pas se dire « je t'aime ». Alors c'est peut-être le seul mot qu'ils vont pouvoir se dire, je t'aime, mais quand ils vont commencer à se disputer, comment ils vont s'expliquer? Et quand ils vont devoir s'expliquer sur les nuances de leurs émotions, et dans les nuances des non-dits de leurs émotions, comment ils vont faire? Alors je suis toujours très très étonné par ces couples qui témoignent du fait que mage, c'est Hachem qui fait les ivougim. Là, c'est, on a, quand ces couples se forment, on voit vraiment qu'Hachem fait les rencontres, et que ces deux-là, ils ont visiblement quelque chose à faire ensemble. Mais d'un autre côté, si le conseil nous est adressé en amont, je crois qu'un homme et une femme qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans une langue commune, mais de s'exprimer complètement dans cette langue. Donc il faut que cette langue soit vraiment une langue maternelle, ou si c'est une langue acquise, il faut qu'ils la parlent tous les deux parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est parfaitement à 101% et non pas à 100%. 100%, c'est pas assez. À 101%, ils la parlent ensemble. D'accord, ils la parlent, cette langue. Donc là, je pense que le meilleur des conseils à donner dans ce genre de situation, c'est de ne pas avancer dans le chidour. D'accord. Et même si le chidour est avancé, de pousser les conjoints à beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir, parce que dans la majorité des cas, ces couples ne tiennent pas. Parce que s'installe entre eux une espèce de distance, et ensuite après s'installe entre eux, plus que la distance dans les couples qui ne marchent pas, s'installe l'étrangeté. C'est étrange. La personne avec laquelle je vis est étrange, d'accord ? C'est une personne qui est complètement, pas seulement étrangère, mais elle est étrange. Et peut-être même un peu inquiétante, je n'arrive pas à la comprendre, d'accord ? On ne peut pas s'étonner dans ce genre de situation que très souvent, on débouche sur des disputes qui sont très virulentes. Et comme on ne peut pas s'exprimer avec la bouche, je vous le donne en mille, on s'exprime avec les mains. Donc c'est, je crois, une situation qui est tout à fait catastrophique et préjudiciable. Il faut, je pense, tout faire pour... sinon empêcher ou du moins bien retarder ces mariages pour que les deux conjoints prennent vraiment le temps de réfléchir. On se marie, on l'espère, une fois dans la vie, et on reste marié dans Olam Hazeh, dans ce monde-là, et dans le monde futur, où on reste donc sous la même roupa. C'est ce qu'on va se souhaiter à tous comme fin de cette émission. Donc vous étiez sur Famille, je vous aime, avec votre serviteur Mordechai Bitton. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions sur radio@torah-box.com. Je vous dis à la semaine prochaine, on termine en musique. Et je vous dis Shalom Aleichem. Kilo chalulach amecha ve'amerachem, kilo tavuchas adechakim e'olam, ki me'olam, 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 ki me'ol